Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous accueillir pour cette seconde édition à Varsovie de la Nuit des idées. Nous avons beaucoup à parler. Je pense que déjà le film était une inspiration première, mais le sujet est plus large puisqu'il s'agit d'une discussion sur l'imagination au pouvoir. Et nous avons un panel assez intéressant, alors que en 2018, nous sommes 50 ans après 68, 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, l'indépendance de la Pologne. On peut voir ça de manière différemment. 1968 n'évoque pas évidemment la même chose pour les Français, pour les Polonais, pour les Tchèques et les Slovaques. Ce sont des histoires bien différentes. Et pourtant, parfois, on peut chercher des éléments communs. Mais l'imagination au pouvoir, ce n'est pas seulement 1968. Hein. L'imagination au pouvoir peut rimer avec utopie. Elle nous amène à nous poser des questions sur, sur le dialogue interculturel. Bon, pour répondre à toutes ces questions, laissez-moi vous présenter tout d'abord nos invités, invités de choix. Vous avez déjà eu, vous avez déjà su que parmi nous, nous avons Michel Hazanavicius, qui est le metteur en scène du film que nous venons de voir, qui, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter, mais je le fais quand même par convention, est connu du grand public pour la réalisation de nombreux films, dont OSS 117, Le Caire, Nid d'espions, OSS 117, Rio ne répond plus, et puis The Artist, qui est un film qui a eu une grande reconnaissance, qui a remporté plus de 100 récompenses, dont le British Academy Film Award du meilleur film, du meilleur scénario, du meilleur réalisateur, le César du meilleur film, celui du meilleur réalisateur, les Independent Spirit Awards du meilleur film, du réalisateur, ainsi que les Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Jean Dujardin. Donc, je propose que nous l'accueillions chaleureusement, une fois de plus. Monsieur l'ambassadeur Pierre Lévy a déjà été accueilli puisqu'il a ouvert notre rencontre. Je le présente quand même. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes ambassadeur de France en Pologne. Vous avez été autrefois directeur Union européenne auprès du Quai d'Orsay. Vous avez été ambassadeur aussi en République tchèque. Vous êtes ancien élève de l'ENA, École nationale de l'administration, promotion solidarité. Hein, solidarité. Vous avez aussi été directeur du Centre d'analyse et de prévision au ministère des Affaires étrangères. Voilà. Eva Vinitska. Bon, alors, pardon, monsieur l'ambassadeur. Eva Vinitska, vous êtes journaliste polonaise, chroniqueuse pour le célèbre hebdomadaire Polityka. Vous avez reçu de nombreux prix, dont le prix Grand Presse, deux fois. Le prix littéraire d'auteur Grefia 2015. Et vous travaillez actuellement sur un livre sur l'année 1968, dans des histoires parallèles en Europe, avec Cesare Łazarewicz. Donc, nous vous accueillons chaleureusement aussi. Zofia Zalewska, vous êtes anthropologue et journaliste. Hein, donc vous avez travaillé, entre autres, à Gazeta Wyborcza, écrit pour Tygodnik Powszechny, pour Zeszyty Literackie, et pour la revue internet Dwutygodnik. Vous avez été lauréate de la bourse du ministère de la Culture et de l'Héritage national. Vous avez, entre autres, travaillé sur la complexité de la traduction, des complications et du côté créatif du rôle du traducteur dans le dialogue interculturel. Donc, et comme disent les Anglais, last but not least, Bernard Perret, vous êtes socio-économiste et anthropologue, on peut dire. Vous êtes aussi enseignant à l'Institut catholique de Paris, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, qui a eu une grande histoire de relations avec la Pologne et avec l'Europe centrale plus généralement. Et vos thèmes de recherche portent sur l'évaluation des politiques publiques, sur l'écologie et le développement durable, sur l'anthropologie économique, mais aussi sur les questions spirituelles et religieuses. Donc, bienvenue parmi nous. Et enfin, je me présente très rapidement, donc Nicolas Maslowski, je suis directeur du Centre de civilisation française et d'études francophones, qui est un centre qui fête ses 60 ans cette année, qui avait été créé en 1958, donc 10 ans trop tôt, 1958 par Michel Foucault, et qui est un centre donc de recherche en sciences sociales et humaines. Bienvenue au public et... Et aussitôt, sans plus d'introduction, je voulais proposer donc deux petits, on peut appeler ça des tours de table. Hein. Je demanderai des réponses autour de 5 minutes par personne. Je voudrais commencer par Michel Hazanavicius, puisque nous venons de voir votre film. Et ma question, un peu naïve, les révoltes qu'a vécues, auxquelles a participé Jean-Luc Godard, ont-elles eu une influence majeure sur sa création et sur son imaginaire ?
Donc bonsoir, enfin rebonsoir. Alors l'imaginaire, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit de toute façon un créateur qui passe par la case imaginaire, disons, en y allant des deux pieds. C'est pas Jean Cocteau. Godard. En revanche, de savoir si ça a eu une influence sur sa création et sur son processus créatif, oui, c'est évident. En fait, bon, là, je vais un peu paraphraser le film, parce que le film raconte précisément ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au nom d'une, je dirais, d'une utopie révolutionnaire, ou collectiviste, en tout cas, enfin, dans le cas de Godard, je crois que quand il a commencé en 1958, au 59 d'ailleurs, avec À bout de souffle, il a fait de manière, je ne sais pas si c'était consciente ou pas, mais en tous les cas, il a fait un film qui réellement a révolutionné le cinéma, c'est-à-dire, ou en tous les cas, qui a révolutionné les modes de fabrication des films. Il a pris toutes les libertés. Dès que quelqu'un lui dit « on ne fait pas comme ça », il le faisait. Et il a fait un film qui était totalement nouveau et qui a complètement donné une espèce d'énorme coup de fraîcheur au cinéma. Je ne sais pas à quel point c'était prémédité, mais ça correspondait en tous les cas à tout un tas de pensées du cinéma qu'il avait pu développer au sein du journal Les Cahiers du cinéma. Donc ce n'était pas non plus un hasard, voilà, ce n'était pas une coïncidence. En revanche, maintenant on fait un bond dans le temps, on est pratiquement 10 ans après. Et son cinéma n'est plus aussi révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il arrive à la fin d'un cycle et il fait un film sur des révolutionnaires qui s'appelle La Chinoise, et en fait, un peu contre toute attente, en tout cas, le film n'a même pas un succès d'estime auprès des critiques, etc. C'est-à-dire que c'est un film qui n'est pas aimé. Et là, je crois que se pose la question pour Godard, réellement, profondément, de savoir qu'est-ce qu'il doit faire, comment aborder le cinéma, etc. Et là-dessus vient... une crise qui secoue le pays, et qui est une crise révolutionnaire, mai 68, et je crois qu'il va prendre ça va être sa manière de rester révolutionnaire avec des concepts comme la révolution permanente, et il va plonger, alors là vraiment la tête est première, avec beaucoup de détermination et d'enthousiasme dans cette aventure. Et il va être révolutionnaire, peut-être non plus de manière cinématographique, comme il l'a commencé, mais de manière ouvertement politique. Et c'est vrai que le processus intellectuel, il est de dire qu'on ne peut pas torpiller l'école en disant que le prof n'a aucune légitimité, torpiller la rue en disant que le flic n'a aucune légitimité, torpiller la justice en disant que le juge n'a aucune légitimité, mais soi-même, au sein d'une équipe de tournage, agir comme un chef incontesté, qui est le mode de fonctionnement des films. Et donc, il va commencer par lui-même, protestant calviniste qu'il est, suisse. Donc, il va commencer par lui-même, et effectivement, il va annihiler son statut d'auteur, son statut de chef, et il va commencer à faire des films qui seront des œuvres collectives. Je crois que ça se double dans son cas, et vous me dites si j'arrive aux 5 minutes, j'arrête instantanément, il n'y a pas de problème. Je crois que ça se double dans son cas avec un processus d'autodestruction qui est quelque chose qui n'est à ce moment-là peut-être moins politique, mais très 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 intime. Et donc effectivement, il va même, c'est-à-dire créer le groupe Ziga Vertov, c'est une manière aussi d'effacer son propre nom. C'est-à-dire que Jean-Luc Godard n'existe plus quand il rentre dans ce groupe collectiviste. Ça, je crois qu'il y a un truc, à mon avis, un peu, enfin, je ne suis pas docteur, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose qui veut dire quelque chose là. Le nom est quand même la dernière chose qui nous restera à tous jusqu'au bout, quoi qu'il nous arrive. Lui, il décide d'annuler ça. Et voilà. Et les films qu'il fait, enfin tous les témoignages de gens qui ont été sur ces tournages-là, il y a quelque chose de pathétique, parce que Godard est, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on ait de l'affection ou pas pour le personnage, et même pour ses films, c'est un maître du cinéma. Et de voir ce maître du cinéma partager ses décisions, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu triste, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas Michel-Ange demander son avis à tout le monde quand il fait la Chapelle Sixtine. Donc je crois que le processus créatif, à mon avis, ne s'accorde pas toujours à une utopie collectiviste. Voilà. Et donc effectivement, ça a profondément changé. Maintenant, juste pour conclure, la beauté du truc, à mon avis, c'est que c'est parce qu'il s'est permis de se perdre dans cette aventure-là de manière qu'on peut juger, mais en tous les cas profondément honnête et profondément sincère, c'est parce qu'il s'est perdu qu'il a fini par se trouver. Donc l'un dans l'autre, c'est sa vie, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire à la fin, c'est au final, il peut nous regarder dans les yeux et dire allez tous vous faire foutre, je me suis peut-être trompé, mais c'est comme ça que j'ai eu raison, quoi. Voilà.
Merci. Je me tourne vers Eva Vinitska, puisque vous avez des obligations qui... Bientôt, je voulais vous poser une question. 1968, comme je le disais, ce n'est pas la même chose pour les Polonais et pour les Français. D'ailleurs, sans doute que beaucoup de Polonais ne regardent pas 1968 français, comme le regardent bien des Français. Vous êtes en train de travailler sur ce livre, vous comparez les différents événements de 68 en Europe. Alors, une double question. D'abord, est-ce que c'est par hasard que toutes ces révoltes, révolutions sont arrivées en même temps? Et la seconde question est, peut-on comparer des événements aussi différents dans leur nature, dans leur direction, que les événements du printemps de Prague, la campagne antisémite ou anti-intellectuelle à Varsovie, les mouvements parisiens que j'ai encore plus de mal à définir en quelques mots. Voilà, donc je vous laisse répondre.
Oczywiście nie odpowiem panu na to pytanie, ponieważ nie chcę robić z siebie wariatki. To znaczy, to jest pytanie bez odpowiedzi. Zdecydowałam się spróbować napisać tę książkę tylko dlatego, że jestem reporterem, ani historykiem, ani politologiem. Gdybym była politologiem albo historykiem, to pewnie czekałabym, aż uzyskam profesurę albo wiele profesur, żeby wziąć się za taki temat. Pracowaliśmy, książka reporterska, którą przygotowaliśmy, to jest taka detektywistyczna trochę praca, ale też daliśmy sobie zupełną wolność. Nie interesowała nas wielka polityka, to znaczy w ogóle nie zajmowaliśmy się decyzjami, które podejmowali generałowie, prezydenci, premierzy, a nawet szefowie partii. Natomiast próbowaliśmy znaleźć historię ludzi, którzy byli, których życie zmieniło się w 1968 roku i nie tylko w Polsce, też poza Polską i też przyjrzeliśmy się wydarzeniom kulturalnym na przykład albo kontrkulturowym, które wtedy miały miejsce po to, i spróbowaliśmy analizować, jak one, dlaczego one miały miejsce i co się zmieniło. Z wielką przyjemnością pracowaliśmy na przykład nad reportażem o powstawaniu filmu Romana Polańskiego Dziecko Rozmery. To jest film, który co prawda był kręcony, czy zdjęcia były w 1967 roku, ale premiera tego filmu miała miejsce w 1968 roku i on bardzo dużo, moim zdaniem, bardzo wiele mówi o tych czasach. Zresztą obecność Polańskiego na festiwalu w Cannes w 1968 i jego spięcie z Godardem i Truffaut, i to też jest opowieść o dwóch różnych 68 latach. To jest Truffaut zawieszony na kurtynie, który próbuje przerwać festiwal, mówiąc, że festiwal musi być demokratyczny, nie trzeba nam w ogóle gwiazd. I Polański, który spędził odpowiednio wiele lat w Polsce komunistycznej, który patrzy na to i mówi, chłopcy, dorośnijcie. Ja to miałem w 1956 roku i to jest dziecinada. Polański oczywiście ustąpił i festiwal w Cannes został, nie został doprowadzony do końca, ale to są te dwa podejścia do 1968 roku. Pyta pan o różne, o marzec, maj. W Polsce jest trudno w ogóle opowiedzieć o 1968 roku. Jest 68 marzec, jest kampania antysemicka, jest protest studentów i to jest rzecz, o której wszyscy mówimy. I zaraz wszyscy będziemy mieć powyżej uszu opowieści o marcu 68, ale jest jeszcze marzec w wielkich miastach i na prowincji. Zrobiłam taki eksperyment i wróciłam do rodzinnego miasta moich rodziców, który w ogóle nie kojarzy się z 68 rokiem, to jest miasto Sosnowiec. W ogóle nie myślicie państwo, prawda? Jak Sosnowiec 68, to w ogóle się nie kojarzy. I ponieważ znałam tam ulicę, znałam ludzi, znałam urzędy, sprawdziłam, jak oni przeżywali ten 68 rok. Na przykład moi rodzice, para inżynierów, którzy nigdy nie ufali temu, co mówi partia, ale też nie wiedzieli, co się dzieje w Warszawie. I nagle po roku okazało się, że nie ma połowy ich znajomych. Po prostu bo wyjechali, ale w ogóle nie było to, po pierwsze nie mieli świadomości, że coś się dzieje, a dwa, mieli wszechmocne przekonanie, że nic nie mogą zmienić, że to w ogóle też jest taka, jeśli chodzi o Polskę, to jest taki refren. Jakby zapyta mnie pan o Europę, na przykład w 68 roku powstał biały album Beatlesów i możecie się śmiać, ale burza, którą stoczyły Nowa Lewica z Beatlesami na okoliczność piosenki Revolution, pierwszej wersji nagranej wiosną, to jest opowieść o maju paryskim, o maju w Londynie, o zamieszkach w Chicago i o morderstwie Kennedy'ego w hotelu w San Francisco. Więc pomyśleliśmy sobie, że ta nasza książka będzie taka trochę jak ten biały album, eklektyczna i polegająca na zupełnej wolności. I strasznie jestem ciekawa, co z tego wyjdzie.
Merci. 1968, ce film est une bonne manière de commencer un débat, mais qui a une dimension plus large, car l'imaginaire au pouvoir, ce ne sont pas seulement des problèmes au sein de la société, ça peut être aussi des questions de relations entre les nations, au niveau international aussi. Et je voulais me tourner vers monsieur l'ambassadeur, ici, pour vous demander, en vous appuyant sur votre expérience de diplomate, Alors, je vais commencer de manière plus naïve. Comment s'articulent les relations dans les relations internationales les intérêts matériels et les imaginaires nationaux? Et pour se rapprocher de votre expérience, quel est alors le rôle du diplomate? Je suppose que la capacité d'imaginer des solutions est au cœur de votre métier.
Avant de répondre à cette question, je voudrais poursuivre un peu la discussion telle que vous l'avez amorcée, en particulier sur le contraste entre ce qui se passait à l'Est et ce qui se passait chez nous, avec la perspective d'un diplomate. D'abord, on ne peut quand même qu'être frappé du contraste entre, d'un côté, ce qui peut apparaître comme un gros chahut d'étudiants, et de l'autre côté, le tragique de certains événements qu'on a connus en Pologne et en Tchécoslovaquie à la même époque. Alors, il y a beaucoup de discussions, et surtout actuellement, des travaux qui ont été faits pour exactement essayer de comprendre ce qu'était mai 68 en France, parce que là aussi, le temps nous manque. Je n'en parlerai pas, mais il y a beaucoup de théories très, très différentes. Bon. Mais le film que nous venons de voir, je crois, en montre une facette qui, je trouve, est assez juste. Moi, j'avais 13 ans, mais je me souviens, j'habitais pas loin d'un commissariat de police et je voyais les policiers qui revenaient avec des boucliers qui étaient cabossés et les casques fripés. Mais tout ça pour dire qu'il y avait un côté un peu délirant et que l'on voit bien dans ces débats à la Sorbonne. Il y a eu ces débats aussi au Festival d'Avignon, à Cannes, vous en avez parlé. Mais il y a beaucoup de théories, je crois, et d'explications et de recherches qui sont faites actuellement pour savoir ce que ça voulait dire, un simple chahut ou quelque chose de plus profond. Moi, je crois, et c'est en cela que les tendances lourdes à l'Est et à l'Ouest se rejoignent. On a vécu pendant longtemps, en particulier à partir des années 60, sur la théorie de la convergence, c'est-à-dire l'idée qu'à travers les échanges internationaux entre l'Est et l'Ouest, la détente, l'augmentation du niveau de vie, finalement les systèmes allaient converger. Il y avait beaucoup, et finalement il n'y aurait pas d'affrontement et on se retrouverait tous peut-être dans des mondes un peu différents, mais qui seraient meilleurs et qui seraient apaisés. Et puis à l'Ouest aussi, chez nous, on était dans un monde en pleine croissance, il y avait un chômage de 5%, mais en même temps on sentait qu'on était peut-être à la fin de ce qu'on a appelé la période des 30 glorieuses. Et je pense que dans des deux côtés, on s'est rendu compte qu'il y avait une impasse. Et je pense que ce qui s'est passé aussi en Tchécoslovaquie, avec les tentatives à l'époque d'un socialisme à visage humain, les impasses aussi en Pologne, et à un moment tout ça a convergé. Et on parle beaucoup aussi d'une décennie d'insubordination dans les années 60. Et je crois qu'il y a des mouvements comme ça qui sont très, très profonds. Ensuite, pour en venir à votre question, l'imaginaire chez nous, il est chez nous diplomates, dans le jeu international, il est constamment présent. Nous sommes habités, et quand je dis nous, ce n'est pas uniquement les Français, mais un nombre de pays dans le monde sont inspirés par la vision de leur pays, de la vocation de leur pays, comme on le dit en France, et donc par l'histoire, la géographie, sa mission réelle ou supposée. Et l'imaginaire nourrit cette action pour le meilleur et pour le pire. Enfin bon, vous voyez à tout ce que je peux faire allusion. Donc je crois que l'imagination, elle est très puissante, et en particulier pour un pays comme la France, parce que il a cette très longue histoire et il pense, et je pense qu'il n'a pas tort, qu'il a une mission qui va au-delà de la simple défense de ses intérêts et qu'il essaye d'avoir une vision du monde, une action dans le monde. Mais je retrouve beaucoup de similitudes entre la France et la Pologne, parce que d'abord nous avons aussi une histoire très profonde qui en grande partie est commune. Et puis ensuite, parce que nous aimons aussi les commémorations, les lectures du passé, les célébrations. Et donc cette histoire est très présente, mais il faut faire extrêmement attention à ce que cette, euh, ces visions ne conduisent pas à un déni de réalité, parce que je crois que c'est là où commence le danger, quand l'imaginaire prend le dessus sur les réalités, et encore plus dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, en tous les cas en Europe, qui est un monde qui se veut un monde de paix, de stabilité.
Très bien, merci. Je voudrais poser la question maintenant à Zofia Zaleska. Vous êtes spécialisée dans les questions de traduction. Comme monsieur l'ambassadeur disait, il y a un travail constant au niveau politique, d'imagination à faire pour comprendre ce qui est partagé, mais aussi pour savoir comprendre la manière dont les choses sont vues de l'autre côté. Donc ça, c'est un peu ma manière de dire ce que monsieur l'ambassadeur disait. Vous êtes spécialisé dans les questions de traduction. Les traducteurs, entre autres, les traducteurs font aussi ce rôle d'intermédiaire entre deux cultures, insèrent une œuvre, le souvenir d'un événement, l'interprétation d'un moment historique dans une nouvelle culture. Ils ont un rôle de créateur, ils ont sans doute un rôle de pouvoir. Est-ce que l'on peut comprendre un événement, une révolte d'un pays à l'autre, en dehors du champ culturel d'origine? Et si oui, comment est-ce que cela se passe?
Ja tylko gwoli ścisłości powiem, że tak, zajmuję się przekładem, ale w tym sensie, że napisałam książkę, która się składa z wywiadów z tłumaczami, czyli tak naprawdę sama nie przekładam, nie jestem tłumaczem, ale ciekawiło mnie to, co mają do powiedzenia tłumacze o literaturze i o swoim fachu, a rzeczywiście mówią bardzo ciekawie i jest to prawda, co pan powiedział, że mają wpływ na to, jak kultury się z sobą porozumiewają i jak ze sobą rozmawiają, albo z trudnością, albo z większą łatwością, i rzeczywiście mają władzę, chociaż jako osoby, które przenoszą z jednej kultury do drugiej, oczywiście mówię o tłumaczach dzieł takich ważkich, ważnych, prawda, bo oczywiście jest też cała rzesza tłumaczy, też ważnych, którzy tłumaczą literaturę popularną, ale chodzi o takie dzieła, które właśnie mogą zrobić różnicę, czyli które wszyscy czytamy, albo które w pewnym momencie historycznym ludzie czytają. No więc tak, ale pyta pan o przekładalność rewolucji. Tak właśnie myślę, że czy możemy, rozumiem, że chodzi o to, czy możemy jakoś współodczuwać w tych różnych, w tym wypadku maj 68 i marzec Polski. Ja myślę, że się ucieknę tutaj do takiej trochę tak się wymknę i powiem, że tak, za Tołstojem, który pisał, że są wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, natomiast każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób, i myślę, że coś w tym jest, jeśli chodzi o rewolucję i bunt. Wszystkie spełnione rewolucje, wygrane rewolucje są podobne i są zrozumiałe i mogą być jakby przełożone, mówiąc tutaj tym językiem tłumaczy. I bo zwycięzcy zawsze są, znaczy, bo prawda, słuchamy zwycięzców, natomiast te przegrane rewolucje już gorzej się przekładają i są trudniej zrozumiałe. Więc oczywiście tutaj uciekam się do pewnego żartu, ale nie jest to do końca, wydaje mi się, nieprawdziwe. Chociaż oczywiście wśród takich doświadczeń ludzkich walka o wiarę o to, że a rewolucja jest taką wiarą w to, że każda, że możemy zmienić świat i że chcemy zmienić go w jakiś sposób, no jest doświadczeniem, które wszyscy dzielimy, prawda? Więc
merci. Monsieur Perret, j'ai aussi une question pour vous. Nous avons vu qu'en 68, il y a 50 ans, il y a eu un certain nombre de crises politico-économiques différentes, mais réel, autant en France que en Pologne, en Tchécoslovaquie. Vous avez travaillé sur les transformations, vous avez réfléchi sur les transformations socio-économiques, anthropologiques de l'individu. Comment la notion anthropologique de l'individu a changé ces 50 dernières années? Quelle était l'évolution auquel nous avons pu observer?
Alors, pour répondre à votre question, je vais rebondir sur le film que je trouve qui est un excellent film sur mai 68. Moi, j'ai vécu mai 68, j'avais 17 ans, j'ai des souvenirs assez précis. Est-ce que ce film montre très bien, et je vais répondre par là à votre question, c'est le décalage entre la révolution socio-culturelle qui était en train de se faire, qui est une véritable révolution, et ce que les individus engagés dans cette action avaient en tête et croyaient faire. C'est-à-dire, il y avait chez beaucoup un imaginaire collectiviste imprégné de marxisme, mais au fond, on pensait faire la révolution contre le capitalisme. En réalité, on faisait une révolution contre les institutions, contre un certain nombre de codes sociaux, et on préparait l'avènement d'un hyper-capitaliste individualiste qui s'est épanoui très largement après mai 68 avec une explosion de la société de consommation le déclin de la classe ouvrière. Et je trouve que la scène où on voit tous ces gens qui se retrouvent dans une villa au bord de la mer pour faire la fête, elle est magnifique parce qu'elle préfigure très bien, au fond, toute la contradiction et le fait que finalement, le point d'aboutissement, c'est un éclatement des modes de vie, c'est un hyper-individualisme, alors que les gens de bonne foi, enfin en tout cas un certain nombre d'entre eux, pensaient de toute bonne foi faire la révolution collectiviste. Et alors, j'étais content qu'on évoque les Beatles, parce que moi, j'ai des souvenirs personnel de mai 68, où j'étais quand même quelqu'un assez naïf, parce que j'avais 17 ans, je n'avais pas une très grande culture politique, mais je peux me créditer d'une certaine intuition et d'une certaine compréhension de ce qui était en train de se passer. Et j'étais très frappé par le décalage entre ce discours collectiviste, marxiste, etc., tout ce que les gens avaient en tête, finalement, enfin pensaient avoir en tête, et puis la musique, les Beatles, le sentiment en même temps de participer à quelque chose de mondial qui était purement culturel, purement de l'ordre des émotions, de l'individu, et qui était complètement, en réalité, complètement différent. Donc je trouve que de ce point de vue-là, le paradoxe de mai 68 est très bien montré par ce film, indépendamment de la question du cinéma que je connais personnellement assez mal.
Bon, très bien, pour ce premier tour de table. Avant de poser une seconde série de questions, je voulais savoir si certains d'entre vous voulaient réagir aux propos des autres.
Jest taki znany łącznik między majem, między Francją i Warszawą, to znaczy przesłuchiwania Daniela Cohn-Bendita, kiedy był aresztowany. I to jest taka sekwencja, którą pewnie wielu Państwo zna, że on jest się pytanie, jak się nazywasz, on mówi Cohn-Bendit, jak się nazywasz, on odpowiada, a w końcu mówi Kuroń Modzelewski. I to był jest taki łącznik. Oni po prostu znali, Jacek Kuroń i Karol Modzelewski byli autorami listu wystosowanego do władz polskich i Cohn-Bendit o tym wiedział. I o tym chciał.
Je voudrais juste aussi ajouter qu'il y avait des leaders qui politisaient beaucoup leur discours. Il y avait beaucoup de gens qui étaient contre une société française statique. Je parle de mai 68 en France, mais c'était pas vraiment une révolution. C'était une espèce de mouvement, effectivement, bourgeois, je crois que vous l'avez bien dit, de secouer des habitudes un peu socioculturelles. Il y a eu chez les gens qui ont cru de manière plus sincère, plus profonde, il y a eu après mai 68... beaucoup de suicides Beaucoup de gens, finalement, n'ont pas pu survivre à ces utopies-là, parce qu'il fallait soit les abandonner, soit ça a été très compliqué. Mais je crois que pour beaucoup de gens, c'était, je ne sais pas si c'était un jeu, mais il y avait quelque chose de très, très joyeux, en fait, dans mai 68. Et mai 68 a commencé pour des histoires de dortoirs mixtes, enfin, justement, non mixtes, et pour des histoires de garçons qui voulaient aller dans les dortoirs des filles. Et en tout cas, la France officielle était très, très, très en retard sur une époque où, enfin, moi, effectivement, je trouve ça très normal qu'on parle des Beatles. Le rock'n'roll, la révolution sexuelle, l'éclatement des mœurs, l'arrivée du plastique, l'arrivée du nylon, tout ça sont des choses où la France était très, 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 très en retard. Moi, j'ai fait un film qui est ouvertement une comédie, mais il y a un moment donné, je voulais dire un personnage, mais c'est parce que je le pense vraiment, c'est un pays quand même dirigé par un militaire qui centralise à peu près tous les pouvoirs, qui contrôle l'information. Je veux dire, c'était ça, la France. Aujourd'hui, on appelle ça une dictature, mais c'était ça, en fait, la France. Le journal télévisé était visé tous les jours par le ministère de l'Intérieur. Donc, c'était normal, je crois, que ça arrive. Et c'est arrivé plutôt de manière plutôt joyeuse, malgré tout.
Przepraszam, już naprawdę ostatni raz, bo mówi pan o de Gaulle'u, waszym prezydencie, który był gościem, mówi o różnych odbiorach maja. Był w mieście, o którym pisze, Sosnowcu, to jest małe miasto, to było miasto przemysłowe na południu Polski. I Charles de Gaulle był tam w listopadzie poprzedniego roku, w 67. I przejechał przez to robotnicze miasto w kabriolecie, pozdrawiając tłumy. I dla ludzi, którzy wiwatowali na cześć de Gaulle'a, to była wizyta kogoś z wolnego świata. To był ambasador wolności, który po prostu przejechał głównymi ulicami. A natychmiast po jego wizycie ludzie zaczęli robić sobie czapki de Gaulle'ów. A ponieważ wtedy w polskich sklepach niczego nie było, to kupowało się taki zwykły kaszkiet, moczyło i nakładało na garnek odpowiedniej szerokości, dopasowanej do głowy i z kartonu dorabiano no właśnie daszek. Dziękuję, już nie będę się wtrącał.
Merci.
Je voulais juste ajouter quelques remarques à ce qui a été dit. Moi, il y a une scène dans le film que j'aime beaucoup, c'est au restaurant. Ils sont en train de dîner tous les quatre, et puis il y a ce couple d'un certain âge qui est joué par Jean-Pierre Mocky. Il y a une violence très forte entre deux. Tu es l'ancien monde, tu es mort, et l'autre lui envoie ce sale jeune, enfin, ce qui est aussi un slogan qu'on a souvent entendu en France. Et donc, ça me semble aussi très bien traduire cet ordre social qui vacillait à l'époque. Hein, et je crois que c'est un point qui est important. Et deuxièmement, pour reprendre, aller plus loin ce que vous avez dit, on a célébré l'année dernière l'anniversaire de la visite du général de Gaulle en septembre 67 en Pologne, un grand moment à Gdansk, à Zabrze, à Varsovie. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce contraste entre le général de Gaulle, qui avait apporté ici un grand message d'espoir, qui avait délivré des discours d'une grande portée géopolitique, avec une vision mondiale, comme il avait fait à Québec, comme il l'a fait en Roumanie, comme il l'a fait au Mexique. À chaque fois, c'était... Ça participait de sa vision du monde. Et en même temps, ce qu'on a vu ensuite, c'est-à-dire ce pouvoir qui a été évanescent, vous savez sans doute qu'il a disparu pendant quelques jours, hein, à Baden-Baden. Il est parti en hélicoptère, tout le monde se demandait ce qu'il était allé faire là-bas. Et ensuite, il est revenu, il a repris les choses en main. Mais donc, il y a ce contraste qui est très, très fort. Et pour aller dans le sens de ce que vous disiez, il y a bien évidemment cet avènement de la société de consommation, une forme d'individualisme, mais il y a aussi quand même une grande libéralisation du pays à l'université, en matière en matière de mœurs. Il ne faut pas oublier que la loi Neuwirth, qui dépénalisait l'avortement, avait été votée en 67. Et La contraception avait été votée en 67. Et ensuite, il a fallu attendre plusieurs années pour que les textes d'application rentrent, soit que la loi soit mise en œuvre. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et donc il y a l'instantané de ces événements en Pologne, en Tchécoslovaquie, en France. Et puis il y a ce qu'il faut voir ensuite dans la durée et comment finalement ces slogans de l'époque ont germé, un peu comme comment est-ce que des courants de pensée se sont diffusés, un peu comme quand on met du colorant dans une rivière souterraine pour voir où ça ressort. Et en 81, on disait aussi « changer la vie », on reprenait un certain nombre de slogans aussi qui étaient des slogans de mai 68. Donc je crois que ce sont des mouvements qui sont extrêmement diffus. Il n'y a pas des séquences qui sont étanches dans la vie des nations, je crois, en particulier dans l'Europe dans laquelle on a vraiment un destin qui est lié.
À propos de mai 68 et de la différence de perception entre ici et la France, sur l'engagement communiste de plein de gens, notamment en France, parce que mes grands-parents, alors qui étaient des juifs polonais, immigrés, et donc qui se sont engagés plutôt dans le communisme, il faut juste se rappeler que c'était un monde qui était binaire, c'est-à-dire qu'il y avait deux blocs idéologiques, et en fait c'est très très simple, quand le monde est binaire, les gens, on aime bien que ce soit simple, vous êtes avec l'un ou avec l'autre. À partir du moment où vous étiez dans le monde capitaliste et que vous étiez critique de ce monde que vous connaissiez, dont vous étiez témoin de toutes les injustices qui véhiculent, comme tous les grands modes de fonctionnement, l'évidence vous poussait à être communiste. Mais en fait, vous n'étiez pas un communiste du monde communiste, vous étiez un communiste du monde capitaliste. Donc c'était finalement assez simple, la lecture du monde, elle était aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire qu'on a une vision ultra chaotique. Enfin, le chaos idéologique et la complexité du monde, elle nous apparaît tous les jours. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir des visions, cohérentes du monde. Je crois j'ai l'impression qu'on a tous une vision un peu plus chaotique. Et sur l'idée de l'imagination au pouvoir, il y a quand même aussi un truc, c'est que pour qu'un pouvoir s'exerce sur autant de personnes sans que ce soit une boucherie, pour qu'on dise, voilà, on va vivre à 60 millions ou 80 millions ensemble, il faut qu'il y ait, je ne sais pas s'il y a de l'imagination, mais qu'il y ait une croyance commune. C'est-à-dire qu'il y a un pacte social où tout le monde accepte de croire ou de faire semblant de croire que ce système est le bon ou que ce système nous convient. Mais c'est une croyance, enfin, ça marche comme une religion. Le jour où on arrêtera d'y croire, ou de faire semblant d'y croire, ça peut être compliqué. Donc on a besoin de ce stimulus de l'imagination pour accepter.
Merci. Oui, la perte de charisme de Gaulle pendant un certain temps est un vrai sujet de science politique jusqu'à aujourd'hui. Qu'il y a eu une espèce de perte de foi, de confiance à un certain moment. Mais revenant sur le ton peut-être un peu plus long, pour nous projeter vers demain, je vais peut-être me retourner vers vous une fois de plus. Vous êtes un artiste, mais vous faites aussi des films sur des artistes. L'artiste est-il avant tout un être politique, un acteur politique, qu'en est-il aujourd'hui? Votre film parle de ce qui s'est passé il y a 50 ans. De votre point de vue, du point de vue de vos convictions, qu'en est-il?
Je l'ai mis dans le film, mais ce n'est pas un scoop, je ne l'ai pas inventé, mais je crois que tout est politique. Enfin, à partir du moment où vous prenez la parole dans l'espace public de surcroît, vous faites acte politique. Si vous décidez de faire la la chose la plus apolitique du monde, la comédie la plus neutre, la plus gentille, etc., c'est évidemment un acte politique. C'est-à-dire que enfin, ne pas faire de politique, c'est politique. Enfin, c'est pas évident. Enfin, ça n'est peut-être pas, mais ça me paraît évident. Oui, je crois que tout. Enfin, vous pouvez soit choisir d'endormir les gens, soit je sais pas, soit essayer de les éveiller sur deux trois choses, soit. Enfin, la politique dans le sens large. Oui, je crois qu'on a tous une responsabilité. À partir du moment où on prend la parole, encore une fois, dans l'espace public, on a une responsabilité. Et là encore, il y a quelque chose pour moi qui est très, très, très nouveau, qui est ce qu'on appelle les réseaux sociaux, c'est-à-dire un endroit, un nouvel espace public de parole dans lequel, finalement, toutes les paroles se valent et qui sont gérées par des algorithmes. Alors ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très nouveau, je crois, dans la manière dont on perçoit le monde et dont on est amené à percevoir le monde. Et du coup, ça, je crois, bouleverse complètement, justement, ce que vous appelez le rôle de l'artiste. C'est-à-dire que il y a encore peut-être 30 ans, la parole d'un artiste ou d'un homme politique ou d'un penseur, d'un philosophe, elle était... elle avait une espèce, il y avait un chemin qui devait être parcouru pour accéder à cet espace public. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, c'est une espèce, d'un côté, il y a une espèce de démocratisation de la parole, de l'autre côté, il y a une espèce de nivellement total de la parole. Et je crois que les rapports ne sont plus du tout les mêmes, le contexte n'est plus du tout le même. Donc, voilà, je crois que c'était quelque chose sur lequel bon de réfléchir, en tout cas.
Merci. Eva Winnicka, vous êtes journaliste reporter. Les reporters, parfois, essayent aussi de changer le monde. Ils sont témoins d'un certain nombre d'événements. Et qu'est-ce qui, finalement, dicte le reportage ? Est-ce que c'est les faits observés ou cette volonté d'influencer sur l'imaginaire des gens, de porter un message pour changer le monde. Quelle est la part de l'engagement dans le travail du journaliste ?
Bardzo się boję takiego myślenia o tym, że dziennikarze mają zmieniać świat, zwłaszcza jeżeli na przykład zmieniają go na żądanie polityków. I w tym sensie lepiej, żeby nie zmieniali. Jest prawdą, że fakty mają coraz też mniejsze znaczenie, również w dziennikarstwie, ale wydaje mi się, że nie można o tym myśleć, kiedy się wykonuje ten zawód. Ten zawód jest bardzo nieatrakcyjny już w tej chwili. Kiedy przystępowałam jakieś 15 albo 18 lat do zawodu po studiach, to byłam dumna z tego, że jestem, a teraz już wstydzę się trochę tego. Dlatego zostałam reporterem i piszę książki, nie pracuję w żadnym periodyku. Mogę mówić tylko o sobie. I dla mnie dziennikarstwo jest sposobem poznawania świata, znaczy ta reporterka, którą wykonuję. Kieruję mną tylko to, czym się interesuje. Nic więcej. A jeżeli się czymś interesuje, to próbuję to zrozumieć. A kiedy ja próbuję to zrozumieć, to chciałabym też, żeby mój czytelnik to zrozumiał i żeby miał przyjemność z czytania. I to jest ten jedyny motor, o którym mogę powiedzieć panu. Jeszcze muszę państwem się pożegnać. Po prostu opiekunka mojego dziecka już naprawdę musi iść do domu. Przepraszam.
Monsieur l'ambassadeur, quand on observe la situation politique en Pologne, en France ou dans d'autres pays européens, on a parfois l'impression que l'imaginaire politique est très très différent d'un pays à l'autre. D'autre part, quand on habite au quotidien en Pologne, on peut aussi avoir l'impression qu'en fin de compte, nous sommes tous très très semblables. Entre ces deux sentiments, en tout cas tels que je les vois, je me pose une question d'avenir. Est-ce que l'imaginaire, est-ce que l'apparition d'un imaginaire européen commun, peut-être politique, est-il imaginable à moyen terme?
Alors, j'évoquais tout à l'heure le poids de l'imaginaire, de l'histoire aussi dans notre action, mais je crois qu'il y a une autre dimension qui est très importante au quotidien, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, comprendre l'autre, la personne que vous avez en face. Alors, c'est souvent plus facile de comprendre un Européen qu'un quelqu'un qui est d'une autre culture. Mais je crois que c'est absolument fondamental. Et là, on retrouve exactement le pouvoir de l'imagination. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la notion de sécurité chez un Iranien ou chez un Indien ou un Pakistanais? C'est pas du tout la même approche que nous. Quel est le prix de la vie humaine aussi quand on est diplomate, quand on est en tous les cas, quand on travaille, quand on a des décisions à présenter, des choix à présenter à des autorités politiques? Parfois, ça peut entraîner des pertes humaines. On décide à un moment de faire la guerre ou de ne pas faire la guerre. Voilà. Donc ça, cet imaginaire est très, très fort. Alors ensuite, moi, je crois beaucoup que... je crois beaucoup, quand on regarde un peu... si on met en perspective les choses sur l'Europe, quand on regarde l'Europe, après les formidables événements de 89-90 auxquels beaucoup d'entre nous ne croyait pas. On a vu ce qui s'est passé. Et pour quelqu'un comme moi qui a travaillé, par exemple, sur la Pologne depuis en 1989-90 et le processus d'élargissement, c'est une immense satisfaction de voir la réussite de ce pays. Mais pendant longtemps, on a cru ensuite qu'il allait y avoir un espèce de mouvement de convergence, d'unité européenne, et que finalement, les différences nationales s'estomperaient. En tous les cas, certains y croyaient. Qu'on se retrouverait dans une sorte d'États-Unis d'Europe. Et puis on voit aujourd'hui que pour un tas de raisons, le fait national remonte, qu'il y a des angoisses identitaires qui sont plus ou moins fondées, qu'il y a des tentations de se refermer aussi. Et croyez-moi bien, il n'y a pas de malentendu, je ne dis pas ça en visant tel ou tel pays, ou la Pologne en particulier. Moi, je ne crois pas que les méchants sont à l'Est et les bons sont à l'Ouest, que les bons Européens sont à l'Ouest. Chez nous aussi, un tas de questions qui se posent. Il y a aussi des forces politiques qui prospèrent sur la peur, l'inquiétude et qui prônent la fermeture. Donc, aujourd'hui, on voit cette réalité nationale je ne dirais pas qui réapparaît, parce que moi, je pense qu'elle n'a jamais disparu, mais en tous les cas, qui est plus présente. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir une approche aussi réaliste et en même temps déterminé que possible. Réaliste, et le fait national existe, bien sûr, et il y aura toujours des Polonais, des Slovènes, des Français, et c'est bien ainsi. Mais en même temps, on a cette histoire commune, et puis on peut avoir aussi des rêves communs. Et je crois que le projet européen, c'est sans doute le plus beau projet que l'on ait inventé depuis 1945. Mais c'est pas simple, parce qu'on dit souvent il faut avoir les mêmes rêves quand on est dans le même lit. Mais il faut aussi avoir les mêmes peurs parfois. Et par exemple, pour quelqu'un comme moi qui travaille beaucoup sur les questions stratégiques, c'est toujours très intéressant quand on se met à 28 autour de la table. Est-ce que les 28 Européens ont les mêmes peurs? Eh bien non. Mais aujourd'hui, on doit se rendre compte que finalement, on est, pour être ensemble, il faut essayer de construire cette culture commune. Les Polonais regardent beaucoup à l'Est, nous on regarde beaucoup au Sud. Et je crois que ce qui fera la force de notre Europe, c'est à la fois ce réalisme en tenant compte de la réalité des nations, mais en considérant qu'on a ce destin commun qui est supérieur. Et je crois que c'est ça qui aujourd'hui doit nous inspirer.
Zofia Zalecka, du point de vue de l'anthropologie culturelle, nous avons vu que nous pouvons comprendre la traduction comme un type de pouvoir. Il intègre une œuvre dans un nouveau contexte culturel, en l'adaptant, en référant à des éléments de la culture locale. La traduction est-elle donc une action engagée et militante?
Tak, znaczy zależy oczywiście, różnie można na pewno o tym myśleć, ale są tłumacze, które mówią wprost, że tłumaczenie jest interwencją w kulturę i ma zmieniać kulturę, ma zmieniać język, ma zmieniać nasze myślenie, że nie interesują ich teksty, które po prostu nie zrobią, nie są właśnie, jak, nie przynoszą zmiany, prawda? Że mamy się poczuć niekomfortowo czytając coś, że mamy poczuć tą obcość, którą wnosi tekst, w tłumaczeniu nawet, że nie ma nam być wygodnie, że mamy czuć, że to jest napisane przez kogoś z innego kraju, z innej kultury, że oczywiście ma to być napisane po polsku, przetłumaczone, ale że ta obcość powinna być w tym tekście słyszalna, a jednocześnie, że jakby tłumaczenie umożliwia dialog z obcością i to jest właśnie to, co przyświeca wielu tłumaczom, żeby jednocześnie wprowadzać pewien zamęt i jakby taką, no w każdym razie wybijać z nas z pewnych utartych ścieżek, także językowych, jakoś inspirować naszą kulturę przez wprowadzanie innych tekstów. No tak, ale nawet może być takim rewolucyjnym działaniem, tutaj nawiązując do czasów przed 89, w latach 80. wielu tłumaczy tłumaczyło po prostu z powodów zaangażowania opozycyjnego, prawda? Tłumaczono teksty, które się ukazywały w drugim obiegu, teksty, które były ważne dla opozycjonistów w bloku wschodnim, na przykład tekst Wacława Havla Siła bezsilna, esej, który był po prostu rozchwytywany i wszystkie wydawnictwa podziemne chciały go publikować, więc oczywiście byli tłumacze, którzy jakby zaczęli tłumaczyć z takich powodów, można powiedzieć, rewolucyjnych, prawda, opozycyjnych, ponieważ chcieli umożliwić ten dialog. Ja też tutaj chciałam tylko dodać może dwa słowa, że ponieważ mnie ciekawi literatura i to, jak ona uczestniczy w tworzeniu pamięci jakichś wydarzeń, to ciekawe jest to, że owszem, szukamy różnych wspólnych narracji, zastanawiamy się nad tym, jak ugryźć właśnie maj czy marzec, czy możemy mówić o pewnej wspólnocie doświadczeń, ale warto zauważyć, że dzisiaj z kolei zwracamy się ku takim, ku pojedynczym głosom. Powstają książki, no tutaj obejrzeliśmy film, który też jest jakimś właśnie pojedynczym, nie aspiruje do dania jakiejś diagnozy po prostu, prawda, wielkiej. W tym sensie jest takim wglądem w pewną historię konkretnego artysty, konkretnego człowieka. Mówiliśmy o reportażu, natomiast w literaturze powstaje bardzo dużo świadectw, świadków tych historii, są wywiady z uczestnikami, prawda? W Polsce ukaże się niedługo książka Mikołaja Grymberga, który rozmawia z żydowskimi uczestnikami marca, czyli jakby ciekawią nas te konkretne historie, nawet nie te wielkie narracje, tylko być może jak można te narracje zbudować z konkretnych głosów, prawda? Z różnych przeżyć.
Merci. Bernard Perret, l'imaginaire concerne un peu tous les aspects de notre vie quotidienne. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions de développement durable. Ces questions sont-elles des problèmes du progrès industriel ou de l'imaginaire social? On parle beaucoup de prise de conscience écologique. Peut-il y avoir une prise de conscience écologique globale sans des éléments de gouvernance globale? L'imaginaire ici au pouvoir peut être vu comme un progrès, comme un projet ambitieux.
Alors, je vais répondre en faisant encore un lien avec mai 68 pour donner un peu d'unité à tout cela. Un des aspects intéressants de mai 68, c'est que un certain nombre de gens sont entrés dans une espèce de résistance en termes de mode de vie, en allant s'installer à la campagne, en vivant très simplement et en mettant en pratique, au fond, leur volonté de rompre avec le système. Bon. À l'époque, c'était évidemment complètement en décalage avec ce qu'était la réalité sociale et économique du pays, puisqu'on était finalement à la veille de l'apogée de la société, des taux de croissance les plus forts de la société de consommation. Donc c'était quelque chose qui était complètement décalé et qui n'avait aucune pertinence immédiate. Mais il est vrai que ces dissidences et cette innovation dans l'imaginaire social et dans l'idée que finalement, peut-être, ça serait bien de vivre autrement, de vivre plus simplement, de produire l'alimentation de manière plus saine, etc. Et bien, aujourd'hui, où nous sommes confrontés à la crise écologique que tout le monde connaît, il est certain que ces choses prennent plus d'ampleur et plus de pertinence. C'est-à-dire que ça n'est plus un espèce de rêve révolutionnaire, mais c'est une prise de responsabilité de gens qui, par exemple les paysans, qui disent on ne peut plus continuer à produire l'alimentation avec des pesticides, en polluant, en produisant une alimentation industrielle qui nous rend malades, mais on va accepter de gagner peut-être un peu moins d'argent, de travailler plus pour produire une nourriture de très bonne qualité. Et puis, on a tout ce qui se passe grâce à Internet avec l'économie collaborative, c'est-à-dire de gens qui disent ben, on va entrer dans des formes de dissidence qui consistent à entrer dans une logique de pair à pair pour mutualiser nos voitures, pour mutualiser un certain nombre de choses. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est en phase avec un certain... C'est peut-être quelque chose qui est en train de devenir tout à fait pertinent sur le plan social et économique. Et je trouve c'est intéressant parce que ça illustre le fait que entre le temps de l'imaginaire n'est pas celui de l'économie ni celui des évolutions sociales réelles. Et il peut y avoir des décalages assez extraordinaires qui font que certaines idées qui ont été portées par un certain imaginaire à un certain moment, mais sans aucune chance de pouvoir impacter réellement la réalité, peuvent finalement faire leur chemin et puis un jour devenir des choses tout à fait pertinentes. Et de ce point de vue-là, une partie des choses qui ont émergé en mai 68, qui ont aujourd'hui, je crois, trouve une certaine ampleur.
Merci. Je propose, avant de lancer le débat entre les intervenants de ce second tour, de proposer la parole à la salle. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions ou des commentaires. Je pense qu'ils pourraient concerner autant le débat que le film, puisque nous devons profiter de la présence de M. Aznavitsus.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre présence ici. Et en premier lieu, je voudrais remercier tous les intervenants, tous les participants de ce débat, parce que c'est très important. Je pense que toutes les interventions étaient vraiment très intéressantes. Mais je voudrais, spécialement, je voudrais demander à réalisateur, M. Aznavitsus, donc, si on parle de la nouvelle vague, on parle de Godard, mais on parle aussi de François Truffaut, pour moi, selon moi, au moins. Et donc, je voudrais demander, parce que François Truffaut a écrit, il y a plus que 50 ans, il a écrit l'un des, peut-être, les plus importants articles sur le cinéma, donc une certaine tendance de cinéma français. Et donc, c'est pourquoi je voudrais demander, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une certaine tendance du cinéma français? Merci.
Eh bien, c'est très compliqué de vous répondre parce que je ne suis pas le François Truffaut de l'époque. En revanche, il y a une certaine tendance de l'économie du cinéma français. Nous avons un mode de financement des films qui est très particulier, qui est très pertinent, qui nous permet de faire plus de 200 films par an, que beaucoup de pays nous envient, mais qui a une tendance à impliquer un mode de fabrication des films, qui a un peu tendance à uniformiser, enfin, même si on lutte énormément pour la diversité des thèmes et des genres, etc., nous avons un mode de fabrication des films. Et nous avons une économie qui est un petit peu unique. Maintenant, sur les films eux-mêmes, je crois qu'il y a des choses assez différentes qui se font. Et on a la chance de pouvoir faire beaucoup de films, non pas parce qu'on est plus talentueux que les autres, mais parce qu'on a un bon système. Mais je ne suis pas sûr que ça réponde complètement à votre question.
Merci. Une autre question ?
Dans quelle mesure le mouvement anti-guerre était important au mouvement 68 en France ? Contre la guerre en Vietnam, le mouvement anti-guerre.
Eh bien, je crois que ça participe justement à cette espèce de... Il y a une part de romantisme, je dirais, chez les intellectuels français. Quand on voit la manière dont Castro ou le Che Guevara, par exemple, sont encore perçus beaucoup en France, il y a évidemment une vision romantique. Et la guerre du Vietnam faisait partie alors, vraiment des préoccupations majeures des gens de cette époque-là. Après, tout à l'heure, je pensais à la guerre du Vietnam. Quand on parlait, je me disais, il y a quand même un truc fou, c'est que pour beaucoup de gens, enfin, si on pense à la guerre du Vietnam, si on parle d'imagination et pouvoir, la guerre du Vietnam est un drame américain. Ce qui est quand même assez étonnant, parce que, en fait, je crois que c'est 1 million de morts du côté vietnamien et je crois 50 000 du côté américain. Mais la force de la fiction fait que pour beaucoup, le Vietnam est un drame d'abord américain. Cette idée m'a traversé l'esprit tout à l'heure, donc je la partage. Mais c'était une manière, comme je vous disais, dans un monde binaire, si vous vouliez être anti-capitaliste, vous étiez évidemment du côté... Enfin, je veux dire, la guerre du Vietnam était un drapeau... inégalable, enfin, je veux dire, imparable.
Ja będę oczywiście musiał być tłumaczony po polsku. Mnie zaciekawiła jedna rzecz w pana filmie, wybrałem się na Godarda, ale tam się pojawiła postać Michela Courante. I jeżeli dobrze wymawiam nazwisko, na takim wielkim przeglądzie w 72 roku, obejmujący całą kinematografię francuską, był film Błękitnego Bluzy i co ciekawe, tak jak ja w sposób szkolny słyszałem o czym jest Nowa Fala, to dla mnie jakby to było jakby nowa fala, kiedy były właśnie te elementy absolutnego zniesienia kina tradycyjnego, kina z ekspresją, z fabułą. Całkowity rozpad i nie wiem, czy pan, oczywiście osobiście mi się on bardzo podobał, jeden z najoryginalniejszych filmów końca lat 60., ale nasz wielki krytyk Zygmunt Kałużyński powiedział, że tym filmem Nowa Fala doszła do kresu i się właściwie totalnie rozsypała. I mówię to, bo może pana zainteresuje też, jak był odbiór Nowej Fali w Polsce. Oczywiście był wielki kult Nowej Fali, oczywiście od 60. roku.
Disons, enfin moi je ne sais pas bien ce que c'est en fait la nouvelle vague, je pense que c'est une appellation un peu, c'est un peu comme le label rouge, quoi. Je sais pas bien, enfin c'est un label qu'on a donné. Mais je crois qu'il n'y a aucune cohérence entre les, si ce n'est qu'ils viennent de la revue des Cahiers du cinéma, il n'y a aucune cohérence artistique entre ces réalisateurs. Si on parle des cubistes, je reconnais la fraternité artistique entre Juan Gris et Georges Braque et Picasso, je la vois. Si on parle du pop art, je vois la cohérence artistique. Si on parle des impressionnistes, je comprends de quoi on parle. Je ne comprends pas réellement dans la nouvelle vague. C'est-à-dire que je crois que les films de Truffaut n'ont rien à voir avec les films de Godard, qui n'ont rien à voir avec les films de René, qui n'ont rien à voir avec les films de Romère. Je crois que ce sont des individualistes, comme beaucoup de gens. Et on a un peu une espèce de label comme ça, un peu commercial, qui a permis à plein de films de se faire. C'était très pratique de faire partie de la nouvelle vague, mais je crois que c'est parti très très vite. Je crois que ça a terminé bien avant le film de Michel Cournot, à mon sens. Mais voilà. Quant au film de Cournot, je n'ai jamais pu le voir. C'est Claude Lelouch qui l'avait produit. J'ai demandé à Claude Lelouch de me faire une projection, mais c'était très compliqué. Il n'avait pas le matériel, donc c'est un film qui est très compliqué à voir.
Il y a encore une question ou un commentaire? Je n'en vois pas. L'heure, de toute façon, est avancée. Donc, à moins que quelqu'un parmi les intervenants ne veuille rajouter quelque chose, je voudrais remercier tout le monde. Moi, personnellement, j'ai été intéressé de découvrir, de redécouvrir à quel point imaginer le monde est essentiel pour pouvoir agir. Et ce qui m'a rendu convaincu une fois de plus qu'il était essentiel d'aider les gens à pouvoir imaginer, justement pour pouvoir changer le monde. Sur ces mots, je vous remercie tous, en particulier les intervenants. Et je pense que c'est mon rôle maintenant d'informer. Oui. D'informer que vous êtes invité par les organisateurs et l'Institut français à une réception qui est juste à la sortie. Merci.